Aujourd'hui l'Église.
Aujourd'hui l'Église.
Aujourd'hui l'Église.
Aujourd'hui l'Église, un magazine présenté par Thomas Vallu.
Bonjour, les évangiles nous parlent que très peu de Saint Joseph. Il n'y a pas une seule parole de lui dans les Écritures. Pourtant, il est très présent, notamment dans les textes sur l'enfance du Christ. 25 citations chez Saint Luc et 17 dans Saint Matthieu. Saint Joseph, saint patron des pères de famille, des travailleurs, il est aussi un modèle pour tous. À l'exemple de Marie, il a dit aussi fiat en acceptant d'être le père adoptif de Jésus. Ce matin, dans notre route, je vous propose de mieux connaître Saint Joseph afin de mieux marcher à son exemple à la suite du Christ. Alors nous allons en parler ce matin avec Sœur Frédérique Oltra. Bonjour ma sœur.
Bonjour.
Vous êtes prieur du Carmel Saint-Joseph à Paris. Alors le Carmel Saint-Joseph, c'est pas du tout celui qui est sur les hauteurs de Montmartre.
Non.
Vous êtes rue du Cherche-Midi. C'est une congrégation sœur du Carmel réformé, dont nous avons fêté le quatrième centenaire de l'arrivée en France.
Oui.
Le Carmel Saint-Joseph, dites-nous un peu plus ce que c'est.
Alors Carmel Saint-Joseph, c'est une congrégation qui a été fondée en 1872 par une Lyonnaise, Léontine Jarre, fondée donc en Bourgogne, dans un petit village du Mâconnais. Et l'intuition de notre fondatrice, c'était de vivre le charisme du Carmel au milieu des gens, au milieu du monde, avec un gros pôle de vie de prière et de vie communautaire, mais une activité, des engagements, disons.
C'est-à-dire que vous êtes des sœurs apostoliques et non pas des sœurs cloîtrées, contemplatives.
Nous ne sommes pas cloîtrées, mais nous sommes de vie contemplative. Vous savez qu'il y a les instituts de vie contemplative,
oui,
et de vie active, et donc nous sommes de vie contemplative, non cloîtrée. Donc nous avons les temps de prière, comme au Carmel, cloîtrés, disons. Mais nous travaillons, au lieu de travailler en clôture, nous travaillons à l'extérieur, dans des secteurs d'activité qui sont...
Alors à Paris, je sais qu'à Chaville, par exemple, il y a une,
oui,
maison de repos, de convalescence. Et à Paris,
oui. À Paris, il y a un foyer d'étudiantes. Nous avons une quarantaine d'étudiantes universitaires. Mais depuis très très longtemps, on a fêté les 30 ans ou 40 ans, 40 ans, je crois,
oui,
du foyer. Oui.
Pourquoi l'association du mot Saint-Joseph au mot Carmel?
Vous savez, Saint-Joseph, c'est un homme discret. Alors le Carmel se veut discret, je pense que c'est en partie pour cela. La discrétion, on en reparlera dans le cours de l'émission, je crois que c'est pour moi une thématique importante dans l'exemplarité de Saint-Joseph, la discrétion, mais c'est aussi peut-être, sans doute, aussi fortement parce que Joseph est auprès de Marie. Vous savez que dans sa fondation... primitive, en 1248, le Carmel est semé sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel, les frères de Notre-Dame du Mont-Carmel, donc au Mont-Carmel. Et donc, je pense que Joseph, eh bien, c'est celui qui écoute, ou disons, reçoit de Marie une façon d'être auprès du Christ, d'être face à Dieu, d'être attentif à la parole. On en reparlera aussi, je pense.
Voilà, tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi que la première église dédiée à Saint-Joseph en France, eh bien, c'est celle du Carmel de Pontoise.
Mmh. Hein,
c'est au pied de la colline de Pontoise, dans cette rue, il y a l'église Saint-Joseph, donc du Carmel de Pontoise, qui a été, il y a 400 ans, arrivé. Voilà. Est-ce qu'on sait d'abord d'où est-ce qu'il venait, à quelle époque il est né, quelle année? Est-ce qu'on a un peu une idée un peu de ses origines?
Alors, non, l'Évangile ne nous dit pas grand-chose. Et comme ce sont les seules sources, à ma connaissance, enfin, du personnage, la biographie de Saint Joseph. Bon, alors on sait qu'il était donc de la tribu de David, qu'il était de Nazareth. On sait que il était artisan, que c'était un homme juste, mais on en a, si vous voulez, des indications propres à l'historiographie antique, c'est-à-dire qu'il n'attachait pas une importance capitale à l'exactitude, enfin disons non pas à l'exactitude, mais à la précision technique d'une biographie. On présentait les personnages en fonction de leur place symbolique dans une histoire, et notamment dans l'histoire d'un peuple ou dans l'histoire d'une tribu ou voilà.
Bon alors visiblement on ne sait pas grand-chose de
non,
lui,
je crois
de ses origines
non,
en tout
à
cas.
Moins que
en tout cas,
à ma connaissance,
voilà.
Non. Hein, voilà.
Comment est-ce qu'il rencontre la Vierge ?
Comment est-ce qu'il rencontre la Vierge ? Selon les évangiles toujours.
Oui, oui, oui.
Alors selon les évangiles, vous savez, on prend le train en marche en ce qui concerne Joseph et Marie dans les évangiles, c'est-à-dire que nous apprenons que Marie était fiancée à un homme de la maison de David, un homme juste. Alors, peut-être serait-ce intéressant de revenir sur le terme juste aujourd'hui, hein, qu'est-ce que ça peut signifier, qui donc se prénommait Joseph. Donc nous le rencontrons en fait à l'occasion d'une annonce concernant Marie, la Vierge Marie. Alors vous savez que dans l'évangile de Matthieu, on a une annonce à Joseph, et dans l'évangile de Luc, une annonce à Marie. Hein, peut-être que la place de Joseph est un petit peu plus importante, est plus au premier plan chez Matthieu, mais c'est toujours à propos du lien qu'il a avec la Vierge Marie.
Quelle est sa réaction au moment où il apprend que sa fiancée est enceinte ?
Eh bien justement, c'est cette réaction, de ce mouvement de justesse, je dirais.
Ouais.
De justice, si vous voulez, ou de justesse. Pourquoi dit-on que Joseph est un homme juste ? Je crois que c'est quelqu'un qui est ajusté à la réalité, au réel de ce qui se présente à lui. Alors, cet ajustement, cette justice, c'est... Bon, alors, vous voyez, c'est difficile un peu d'expliquer. Hein. Il y a l'histoire du songe.
C'est-à-dire que sa première réaction, quand même, c'est de révolte.
Sa première réaction, c'est d'accomplir la loi. C'est-à-dire de répudier, mais en secret, cette jeune femme dont il sait qu'il ne peut pas être le père de l'enfant. Hein, donc, il va accomplir, obéir à la loi, qui est la répudiation, mais il veut le faire en secret. C'est-à-dire que déjà dans cet accomplissement de la loi, il laisse s'introduire, et ça me paraît très très important, quelque chose, je dirais, comme une confiance inaltérable dans celle qu'il a choisie pour épouse. Et voilà. Donc, c'est peut-être, on pourrait dire, hein, essayons de débroussailler un peu les affaires, c'est peut-être cette confiance qu'il laisse introduire dans sa déception, on pourrait dire, ou dans son doute, dans sa, qui fait que il ne va pas se positionner comme un censeur radical, et qu'il va être capable d'entendre encore plus quelque chose. D'où le songe de Joseph, où il entend, de fait, une autre parole que celle que la réalité objective première lui souffle. Joseph, c'est l'anti-Adam, si vous voulez. Il n'écoute pas la parole du serpent. Il n'écoute pas la parole de suspicion. Il va laisser, d'une certaine manière, une autre parole venir le toucher. C'est pour ça qu'il est juste. Une parole qui lui vient d'ailleurs. Hein ?
En même temps, là, il va faire aussi un fiat. Il va accepter comme la Vierge. C'est très très beau aussi, ça. Parce qu'il vit aussi l'abandon, là, total.
Tout à fait. Alors déjà, et puis en plus, on peut dire que... comment peut-il... comment peut-il faire... consentir à ce fiat devant une situation aussi énorme où il peut être ridiculisé, ou même on peut lui dire tu n'accomplis pas ce que la loi prescrit envers de telles femmes, etc. Comment peut-il le faire sinon parce qu'il y a comme en lui, comme une espèce, on dit, un habitus d'écoute, une habitude d'écoute, de longue fréquentation, de l'écoute d'une autre parole qui peut le toucher et qui peut, si vous voulez, faire brèche dans une objectivité de soupçon. Ça me paraît ça très intéressant. Alors, ça n'empêche pas qu'il doute. Vous voyez, un peu, déjà, on touche un peu à l'exemplarité. Le doute n'est pas quelque chose de foncièrement mauvais, et nous sommes tous touchés par cela. Mais comment laissons-nous le doute qui peut nous habiter, le questionnement, la déception, être traversé par une autre parole qui va nous conduire plus loin? C'est ce qu'il parvient, ce à quoi il consent. Parce que, je crois, c'est un homme qui est juste avant même, qui est déjà habité par la justice, avant même que l'événement ne vienne le toucher. Vous voyez, ça, quelque chose dans ce goût-là. Enfin, je cherche avec vous.
Hein. Oui, oui. Voilà. Alors, il y a ce fiat, cette acceptation totale d'être le père de l'enfant attendu par la Vierge. Il y a l'appel au recensement qui est fait. Ils partent pour Bethléem. Là, on sent, j'allais dire, un chef de famille, là, un père attentionné déjà. Il va rechercher une auberge. Et en même temps, souvent, d'ailleurs dans l'iconographie, on voit quand il part à Bethléem, la Vierge sur l'âne et lui à côté. On le sent prévenant, présent là.
Alors, je ne sais pas si je peux faire ce rapprochement, mais j'ai vécu dans les pays arabes. Vous savez que dans le monde arabe, c'est l'homme qui monte le cheval ou l'âne, et c'est la femme qui marche à côté. C'est une position qui n'est pas décente pour une femme dans le monde arabe. Alors, est-ce la même chose dans le monde juif, au temps de Jésus? Je n'en sais rien, mais ce sont deux mondes qui sont très très proches. On peut garder un peu dans l'esprit que l'iconographie a déjà dit quelque chose d'une délicatesse, d'une attention, d'une prise de responsabilité de Saint Joseph, de Joseph, inhabituelle dans le monde dans lequel il vivait. La femme, comme l'enfant, était comptée pour négligeable dans ces sociétés-là. Elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint avant qu'ils n'aient habité ensemble. Donc on suppose, mais tout ça c'est des interprétations, on suppose que l'annonce de la venue de Jésus, de cet enfant, touche Joseph avant même qu'il ait habité, connu, disons, son épouse Marie, puisque les fiançailles et épousailles sont une même et unique chose, mais il y avait, voilà.
Pour en revenir à cet épisode, à Bethléem, cette naissance, là, l'enfant va être, j'allais dire, au premier plan, après avoir vraiment porté toute son attention à la mère de l'enfant, l'enfant va être au premier plan, on voit les bergers qui arrivent, à l'épiphanie, les rois mages qui arrivent. C'est aussi la prise de conscience, peut-être, par Joseph, de quelque chose de, j'allais dire, d'atypique, d'anormal, là, non?
Oui. Alors, moi, je veux bien employer ce terme-là, mais je le contesterai un petit peu. Ce qui me semble très, très important concernant Joseph, c'est que c'est l'homme de l'ouverture au mystère. Alors, le mystère, pour moi, c'est pas anormal. Le mystère, c'est la véritable...
Oui, mais c'est pas ce qu'il y a de courant, entre guillemets. Voilà. Voilà.
C'est-à-dire, nous n'avons pas l'habitude de le déchiffrer dans le réel qui nous est donné à vivre. Donc, nous ne voyons que les épiphénomènes, enfin, les choses qui apparaissent aux yeux, comme ça. Mais lui, il est, habité de telle manière, enfin, par la parole de Dieu, je crois, par l'écoute, qu'il est capable de laisser une brèche, de voir la face mystérieuse du mystère, mais du mystère de Dieu profondément. Alors, par exemple, prenons l'épisode, donc il y a la nativité à Bethléem, mais prenons un épisode où on le voit bien là, se mettre face au mystère et donner à entendre ce qu'est la véritable paternité. C'est l'épisode de la fuite de Jésus au temple, la disparition. Hein, de Jésus au temple. où là, Joseph reste dans une discrétion très très grande parce que c'est Marie qui prend la parole. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?»«
Oui, ton père et moi. Hein. »«
Un ton père et moi te cherchions. Mmh. » Voilà la paternité qui arrive. Et la réponse de Jésus, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Et donc, qu'est-ce que Joseph a pu percevoir et que je crois chaque homme et chaque femme, bon, prenons Joseph et Marie, on va pas les séparer, hein. Qu'est-ce que Joseph a pu percevoir du mystère de la véritable paternité, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul père, c'est Dieu, hein, le père du ciel. Alors là, il y a quelque chose à creuser, et je crois que, voilà, l'homme du mystère, c'est-à-dire celui qui est devenu père, à l'intérieur même d'un consentement qui le menait où il ne savait pas.
Ça peut nous amener à nous poser la question de Saint Joseph, j'allais dire le juif, le priant. Quelle était la vie de prière de Saint Joseph? Alors on voit quand même que dès la naissance de Jésus, tout de suite, au bout de 8 jours, il respecte la loi juive avec la circoncision. Il y a cet épisode de la présentation au temple, hein, aussi. Oui. Et puis oui. Là, on voit que la famille était partie aussi en pèlerinage au temple, hein, ce dont nous parlions oui. tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que il a transmis la foi à Jésus? Quelle était sa vie de père et de religieux?
Alors, moi, je crois qu'il observait la pratique religieuse des hommes de son temps, c'est-à-dire il devait aller à la synagogue. Donc, d'ailleurs, dans la synagogue de Nazareth, on sait que Jésus, adulte, la fréquente de manière forte. Donc, il devait aller à la synagogue. On pense, on sait aussi qu'il faisait le pèlerinage annuel à Jérusalem pour la Pâque, d'où l'épisode dans le chapitre 2e de l'évangile de Luc, qui est propre à Luc, hein, mais qui est un épisode très très fort. On a aimé à représenter, mais ça, c'est hors évangile, la Sainte Famille priant. Hein, je crois qu'il y a des représentations actuelle, en tout cas, voilà. Moi, je vois bien. Je pense que Joseph a dû conduire Jésus à sa majorité dans le peuple de l'Alliance, qu'on appelle la Bar Mitzvah, hein, donc où Jésus devient responsable de la loi, et donc il a dû conduire Jésus jusque-là. Je pense que il y a beaucoup de choses aussi à réfléchir sur l'exemplarité de l'unité, enfin, ou de la cohérence, on pourrait dire, en lui, entre ce qu'il pouvait dire mais qu'on n'entend pas dans l'évangile, et ce qu'il vivait. Donc un homme au travail, prenant ses responsabilités, priant, puisque... on nous le montre montant au temple, etc., soucieux de la loi, et aussi un homme qui écoute au-delà de la loi. Hein? Alors, quand même, Jésus n'a pas, disons, inventé de nulle part la position qu'il avait, et dont les évangiles témoignent, par rapport à la loi. Moi, je le trouve très enraciné dans la liberté d'enfant de Dieu, qui est celle de Joseph. Il fallait une liberté phénoménale pour prendre la responsabilité qu'il a prise face à tout le monde. C'est un homme libre, en fait.
Alors, il y a toute l'époque de la vie cachée, dont les évangiles ne parlent quasiment pas, hein, donc de toute l'enfance, l'adolescence et puis les premières années de vie d'adulte de Jésus. C'est aussi Joseph, père de famille. Ma sœur, comment est-ce qu'il vivait justement ce fait que, là où on rappelait l'épisode quand Joseph et Marie perdent Jésus au temple, quand Jésus revient, il dit « mais je dois m'occuper des affaires de mon père ». Comment est-ce que Joseph réagissait à ça justement?
Alors, moi, je ne sais pas comment... C'est difficile de faire la psychologie des personnages de l'Évangile, mais ce que j'en comprends pour ma vie... moi, je suis pas homme, je ne suis pas père, mais je suis femme. Et quelque chose de la maternité s'accomplit, quel que soit le chemin que l'on choisit. Enfin, la vocation à laquelle on répond.
Tout à fait. Et rappelons-nous que dans cette émission-là, il n'y a pas très longtemps, où on parlait des femmes dans l'Église, et ouais. J'essayais de caricaturer les choses en disant, bah finalement, Marie, c'est pour les femmes. Non, Marie, non. C'est pour les hommes, c'est un modèle pour les hommes et les femmes, et Joseph, c'est un modèle pour les hommes et les femmes.
Voilà, hein, c'est ça. Voilà. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Et donc Joseph, il est confronté très vite au mystère de sa propre paternité. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à dire au père aujourd'hui. Peut-être que le déficit de paternité vient du fait qu'on avait un modèle de paternité dans l'esprit qui laissait trop peu de place à la référence au Dieu Père. C'était une paternité selon la loi des hommes, très hiérarchique. Alors que avec Joseph, on a une paternité. Il est père réellement, mais il est père parce qu'il est fils du père lui-même. Il est capable d'être rendu père parce qu'il est à l'écoute de l'esprit, de l'ange, si vous voulez, de l'esprit qui lui désigne un autre de qui vient toute paternité, comme dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Et c'est parce qu'il reçoit sa liberté, sa personne, son être du Père qui est origine de tout, qu'il devient lui-même Père. Et on peut dire d'une certaine manière que n'ayant pas connu Marie, il engendre réellement Jésus à sa vie d'homme en tant que Père. On a là une image magnifique de paternité. Nous, on n'est pas Père que biologiquement. Des gens qui adoptent des enfants font aussi ce chemin de paternité. Un homme qui est père biologiquement, je le suppose, mais une mère c'est pareil, mère biologiquement, doit recevoir sa propre paternité ou sa propre maternité du père. Sinon, nous nous mettons à l'origine. Or, la grandeur de Joseph et ce qu'il a à dire, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que il n'est ni son origine, ni son terme, que se recevant du père qui est origine de tout, il devient capable d'engendrer. Et si les hommes et les femmes entendaient engendrement et enfantement, paternité et maternité, dans ce sens-là, il y aurait peut-être un petit peu moins d'exclusion, parce qu'on est tous fils et filles du Père. Hein, voilà, je dirais ça comme ça.
Mais bon, là on est quand même dans l'iconographie un peu imaginaire, parce qu'on ne sait pas grand-chose de la vie.
Mais c'est une réalité très forte, et je crois que vous savez, l'évangile, il faut interpréter et imaginer un petit peu. Alors on peut interpréter de manière très savante, mais on peut aussi dans la prière ou dans la méditation imaginer des choses. C'est pas interdit. Thérèse d'Avila disait que avec la liberté des enfants de Dieu, l'Esprit nous donnait toute licence pour interpréter et imaginer ce que l'Évangile ne disait pas. Voilà, c'est dans los conceptos, les pensées sur l'amour de Dieu, hein, de Thérèse de Commentaire du Cantique des Cantiques. Bien, alors je reviens à la chose. Jésus prend une sainte colère contre les pharisiens et les légistes en disant « Ce que vous auriez pu donner à votre père ou à votre mère quand il en a besoin, vous le déclarez offrande sacrée. Vous vous soustrayez au devoir d'honorer père et mère pour faire une offrande au temple, offrande sacrée. »
C'est-à-dire Corban. Qu'avant de faire une offrande à Dieu, il faut d'abord la faire quand ses parents sont dans le besoin.
Voilà, donc ce que vous évoquez, on en a la trace dans une parole de Jésus, dans un dialogue de Jésus très vigoureux dans l'évangile, où il renvoie les pharisiens à la bonne interprétation de la loi, à savoir, si vous êtes légaliste, vous allez au mur, hein, au trou, mais si vous interprétez la loi dans le sens du commandement, c'est-à-dire honore ton père et ta mère, eh bien, vous allez porter assistance à vos pères et mères. Alors, on ne le voit pas faire, mais comment Jésus pourrait-il dire quelque chose qu'il n'a pas lui-même vécu ? Enfin, ça paraît incroyable.
Justement, Joseph, quand il en tout cas dans toute la fin, dans toute la vie publique de Jésus, on parle de Marie, on ne parle jamais de Joseph.
Ouais.
Qu'est-ce qu'est devenu Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la fin de vie, là, sur la vie publique de Jésus.
Hein, il n'y a aucun signe précis dans les trois synoptiques, évangiles synoptiques de cette mort de Joseph. Bon, de fait, on ne peut que constater qu'il n'est pas là. À la croix, en tout cas, il n'est pas là.
Oui, puisque Jésus confie sa mère à Jean.
Voilà,
hein.
Et il y a donc ce qui fait supposer qu'il est décédé, il est mort, puisque Marie a besoin, n'a plus de protection, et donc est confiée. Mais c'est aussi un texte hautement symbolique, hein, dans l'évangile de Jean. Donc, moi, je dirais quelque chose qui est une interprétation, puisque on a le droit. Hein. Je dirais que cette discrétion de Saint Joseph, qui ne veut pas dire qu'il est au second plan, c'est très grand d'être discret, le Messie est discret, me fait penser à la discrétion, à l'effacement de Jean-Baptiste. On a là deux personnages qui sont à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament et qui désignent le Christ, chacun à leur manière. Jean-Baptiste par une prédication très forte, et Joseph par un engendrement qui lui vient d'un autre. Il se laisse traverser par cet engendrement. La discrétion de Joseph, les disciples de Jean-Baptiste viennent poser la question à Jésus, et ils demandent « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus renvoie à la réalité de la vie. Allez dire à Jean: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Eh bien, on a exactement la même chose avec Joseph. Il renvoie à la réalité du passage étonnant de Jésus au milieu des hommes et des femmes qu'il saisit par son dynamisme, par la grâce, hein, on pourrait dire. Alors, il renvoie à ça et il s'efface.
Alors, en vous écoutant, Joseph, homme juste, homme discret, homme en même temps qui dit oui, un homme libre, un homme qui est un véritable homme, c'est-à-dire qui prend ses responsabilités,
oui,
de
oui,
père de famille, de travailleur, j'allais dire un homme moderne aussi, parce que il va bousculer les traditions de l'époque en mettant sa femme, même enceinte, au lieu de la faire marcher, il la met vraiment sur l'âne pour la faire avancer. Finalement, c'est un modèle. Alors, c'est pour les hommes et pour les femmes d'aujourd'hui, c'est un modèle assez étonnant dont on ne parle pas beaucoup. C'est un modèle pour la vie d'aujourd'hui, pour la vie du père de famille, hein, votre vie d'homme aussi qui travaille. C'est un modèle pour vos enfants. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, de faire connaître de Joseph, là? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre vie de prieur, de femme, qu'est-ce qui vous permet, quel est l'exemple, qu'est-ce que vous retenez de Saint Joseph, en quoi est-ce que Saint Joseph vous aide aujourd'hui à avancer?
Je crois vraiment que j'ai essayé de le dire là tout au long. Je retiendrai ces trois mots, hein. La discrétion de Joseph, c'est l'abaissement propre au Christ, l'abaissement du Messie, et donc il le vit, lui, déjà dans sa vie d'homme, et on est appelé à vivre cette discrétion-là. La justesse, comme je disais, l'ajustement au réel, à l'écoute d'une parole qu'il ne construit pas à l'intérieur de lui-même. Et la troisième chose, l'ouverture au mystère, c'est-à-dire recevoir mon origine, recevoir ce qui construit une communauté, non pas de toutes les compétences, ou une famille si vous voulez, de toutes les compétences et les talents que l'on peut mettre ensemble, mais recevoir de Dieu, enfin du Père.
En tout cas, merci d'être venu nous parler de Saint Joseph, de nous avoir éveillés à ce beau modèle, Sœur Frédérique Oltra. Et voilà, bonne journée à tous. Au revoir.